7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisines et de voisins. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nous parlons aujourd'hui de la violence conjugale, les coups ou les insultes à l'abri des regards, mais pas forcément des oreilles, au cœur du foyer. Selon la Banque mondiale, la violence conjugale et le viol représentent pour les femmes de 15 à 44 ans un risque plus grand que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis. Oui, il faut avoir cette réalité-là dans la tête. La violence conjugale existe bien sûr partout dans le monde avec ces mêmes questions. Comment briser le silence pour ces femmes battues par leur conjoint ou leur ex-conjoint? Comment sortir d'un sentiment de culpabilité que beaucoup éprouvent alors qu'elles sont victimes de violences? À qui parler? Mais évidemment, d'un pays à l'autre, là, il existe des réponses différentes pour protéger, pour alerter, pour punir. Quel est le rôle de la police et de la justice chez vous, les voisins et les voisines, pour protéger les femmes victimes des coups de leur mari? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nous allons discuter de la violence conjugale avec nos invités. Maître Tomasini, avocate au barreau de Paris et spécialiste des violences conjugales, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également en compagnie de Marie-Laurence Parinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute, psychanalyste et vous travaillez sur ces questions de violence conjugale également en Inde, où vous séjournez régulièrement. Nous serons également au téléphone avec Fatoumata Gaindiaye à Dakar. Elle préside l'association des juristes sénégalaises. C'est un groupe de femmes particulièrement entreprenantes qui a entre autres monté des boutiques juridiques au cœur des quartiers populaires pour informer les femmes sur leurs droits. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, tous vos appels sont anonymes. Je vous lis quelques messages postés sur notre fil Facebook. Adilou, qui est dans le nord du Cameroun à Yagoua. J'observe au quotidien des violences conjugales à travers les voisins de mon village. J'ai constaté que les hommes menacent leurs femmes sans arrêt, comme si elles étaient seulement là pour leur obéir. Si elles refusent, justement, ils bastonnent leurs femmes. Charles, qui est à Bujumbura, au Burundi, un pays en proie à la violence en ce moment. Les violences conjugales sont fréquentes dans ma région et le pire est que la justice ne défend pas les femmes battues. Ève est à Abidjan, c'est une voisine assez directe. Mon mari ne lèvera jamais la main sur moi, sa princesse, sinon il verra ses couilles chez le juge. Voilà, fermez les guillemets. Fousni à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. En tant qu'homme, je trouve que nous sommes souvent fautifs. Certains d'entre nous sont alcooliques, ne font plus attention à leurs gestes et propos. Alors si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales, appelez-nous au 33 1 4 84 22 71 71. Scène de la violence conjugale au Niger. Igor Strauss s'est rendu dans les bureaux de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, créée en 1998 à Niamey. Et là, il s'est entretenu avec Khadija Moussa. Elle a 32 ans. Khadija s'est mariée à 19 ans avec un homme qu'elle n'avait pas choisi et avec qui elle a eu 4 enfants.
Mon mari m'insulte et en plus de cela, il me frappe.
Mais pourquoi? Sous quel prétexte?
Même moi, je n'arrive pas à expliquer son comportement. Parce que des fois, les gens me demandent si mon mari est un alcoolique ou un fou. Il a un comportement bizarre.
À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes vraiment senti en danger?
Je me suis senti en danger au moment où il m'avait violemment frappé jusqu'à casser ma tête.
Est-ce qu'il battait aussi vos enfants?
C'est ma co-épouse qui fait souffrir mes enfants. La deuxième femme de mon mari, puisque moi je suis la première. C'est à l'issue de son mariage même que les maltraitances se sont accentuées jusqu'à me donner des coups de manière violente. Quand j'ai constaté que c'est une femme qui n'entretenait pas la maison, malheureusement, cette femme-là, c'est une femme qui est sale. Elle lave même son enfant au salon, les tasses par-ci par-là, elle refuse de balayer la cour. Et quand je l'ai engueulée, elle est partie voir son mari pour lui dire que je suis en train de la menacer. Et lui, sans pour autant chercher à savoir quoi que ce soit, il s'est mis à me taper.
Aujourd'hui, vous êtes ici à l'association des femmes victimes de violences. Mais comment vous vous êtes retrouvée ici? Vous avez fui chez vous? Comment ça s'est passé?
C'est quelqu'un qui m'a orienté vers l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, parce que dans le village où nous étions, il m'était vraiment difficile de contacter une structure de référence.
Et donc vous avez laissé vos enfants sur place et ça, ils sont restés au foyer, vos enfants?
Je me suis trouvée dans l'obligation de laisser mes enfants parce que en ce moment, je ne travaillais pas. La justice aussi, quand elle avait tranché, elle avait donné la garde des enfants à mon mari parce que lui, c'est un fonctionnaire.
Ah, parce que vous avez, vous êtes passé en justice, c'est ça?
Oui, avec quoi justice?
J'ai été dans un premier temps à la justice départementale et là-bas, nous ont donné raison à mon mari par rapport à la garde des enfants. Puisqu'il y a une enquête qui a été diligentée, comme quoi moi je ne fais rien, je n'ai pas de ressources pour pouvoir garder les enfants. Et j'avais essayé de tirailler jusqu'à aller au niveau de la région de Tillabéri pour porter plainte. Là-bas aussi, je n'ai pas eu gain de cause. Parce qu'ils ont appliqué la même décision.
Quand vous y repensez, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la violence physique, c'est la violence morale?
Donc, ce qui m'a fait mal dans tout ça, là, c'est les coups et blessures de la part de mon mari. Et de surcroît, il m'a tapé violemment à cause de ma coépouse. Après 12 ans de mariage, le fait qu'il me tape à cause d'une autre femme, ça, je ne l'oublierai jamais de ma vie. À chaque fois quand je pense à ça, je me permets de pleurer.
Maître Tomasini, Marie-Laurence Pariné, là on l'entend bien avec le témoignage de cette jeune femme nigérienne qui du coup a perdu la garde de ses enfants pour protéger sa propre vie finalement. Le contexte culturel de la violence conjugale n'est pas le même hein, à Niamey, à Paris, à Shanghai, à Rio. Et pourtant cette violence n'est pas liée au niveau de développement d'un pays. Marie-Laurence Pariné.
On entend les mêmes paroles que l'on entend ici. Il m'insulte, il me tape, je me sens coupable parce qu'il est parti avec une autre, sa maison était plus propre que la mienne, donc ça doit être de ma faute quelque part. Et puis, monsieur est fonctionnaire, donc monsieur est plus à même économiquement de prendre en charge les enfants, et ben je perds la garde de mes enfants. Voilà.
Maître Tomasini.
Oui, je dirais deux choses, deux observations sur le témoignage que l'on vient d'entendre. Tout d'abord, chaque femme doit savoir qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'explication rationnelle à la violence d'un conjoint. On a entendu cette femme, je ne comprends pas pourquoi il me frappe. Elle ne comprend pas parce qu'il n'y a pas d'explication. En fait, c'est simplement un processus de domination. Donc c'est une volonté de faire obéir et de montrer pour l'homme, pour le conjoint, qu'il est le maître chez lui. Et c'est tout. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, quoi que fassent ces femmes qui sont violentées et battues, qui cherchent absolument à endiguer cette violence par tout moyen, à faire en sorte que l'intérieur soit extrêmement propre, que les enfants soient également changer,
c'est
leur devoir.
C'est déjà tombé dans le piège, finalement.
C'est tombé dans le piège parce que de toute façon, rien n'ira jamais.
Voilà, donc on les entend avec leur culpabilité de dire, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Sûrement que j'ai pas fait ci, fait ça. Et en fait, c'est le phénomène de l'emprise même qui les conduit à ce type de réception.
Justement, si on revient sur les chiffres de la France, on a vraiment l'impression que le couple est le lieu de tous les dangers. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Plus de 200 000 femmes ont déclaré être victimes de leur conjoint, de leur ex-conjoint d'ailleurs, en 2014. Dans un pays tout de même où le sujet est régulièrement abordé dans les médias, où les femmes peuvent s'informer de leurs droits relativement facilement, la violence conjugale continue d'être très importante. Est-ce qu'elle a au moins tendance à régresser ou pas du tout, Maître Tomasini?
Pour répondre à votre question, je répondrai très simplement pas du tout. elle n'a pas tendance à régresser puisque les chiffres sont en augmentation. Puisqu'on avait en 2011-2012, il y avait 210 000 femmes victimes de violences en France, hein, j'entends. Aujourd'hui, on en a 247 000. Et je vous parle de femmes victimes de violences, je vous parle pas de celles qui déposent plainte. Parce qu'il n'y en a que 15% sur le nombre de femmes battues qui déposent plainte. Donc je dirais non, il n'a pas tendance à régresser ce chiffre. On a toujours 129 femmes victimes d'un homicide conjugal par an. Donc ce chiffre, il n'a pas évolué. Bien que on assiste à des campagnes de sensibilisation médiatique, à des plans triennaux de la part du gouvernement, avec une vraie volonté de réveiller les consciences et les mentalités, non, c'est toujours extrêmement difficile en 2015 de déposer plainte.
Et je pense moi-même que cela augmente, que nous sommes dans une société qui favorise la violence faite aux femmes, parce que nous sommes dans une société très violente.
Et la violence des ex-conjoints aussi, hein, qui a augmenté ces derniers temps.
Oui, mais c'est compris dans la loi. Ouais. C'est-à-dire la loi de 2010 évoque les violences entre concubins et ex-concubins.
Et nous voyons des jeunes filles, de plus en plus de très jeunes filles venir chercher de l'aide parce que elles se trouvent rentrées dans cette spirale de la violence, alors que, je dirais, a priori, elles ont reçu une culture où la place de la femme et la parole de la femme a davantage de poids.
Vous le savez, vous avez la parole, les voisines, sur ce sujet, la violence conjugale. Si vous êtes victime, si vous êtes témoin, bien sûr, les voisins ont aussi la parole. 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne tout de suite avec Victoire à Abidjan.
Bonjour.
Bonjour Victoire.
Bonjour Emmanuel.
Victoire, vous êtes à Abidjan à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ivoirienne, hein. Vous avez fui un mari violent lorsque vous viviez au Togo, c'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Expliquez-nous.
Moi-même je suis togolaise, mon mari aussi il est togolais. Mon problème est que il se drogue, c'est un drogué. Il est violent, il me frappe partout, même si je suis enceinte, il me frappe pour un rien, il me menace. Il m'a tellement torturée que j'ai fini par le fuir. Mais avant de fuir, il a essayé de m'étrangler. Mmh. Et plusieurs fois, j'ai appelé la police a intervenu plusieurs fois, ça n'a pas donné grand chose. Et le jour, il a essayé de m'étrangler. Alors, il va à la commissariat, le commissaire dit qu'il ne peut rien faire parce que même s'il le met en prison, qu'est-ce qu'il reçoit, il va faire la même chose. Donc, il me conseille de m'éloigner, d'aller loin de lui, de quitter. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai fui le Togo pour arriver à Abidjan.
Et vous êtes arrivé à Abidjan alors que vous ne connaissez personne, en fait, à Abidjan?
Non, j'ai contacté une famille qui a accepté de m'héberger pour m'aider à sortir parce que j'étais tellement traumatisée, j'ai eu cette tension.
Vous êtes partie avec vos enfants, Victoire, à Abidjan?
Non, en partant, j'ai fui seule, mais après un an, j'ai laissé les enfants avec ma maman. Mmh. Après un an, ma maman est morte, donc maintenant les enfants sont venus rester avec moi.
Avant de fuir en Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez porté plainte au Togo?
Oui, je l'ai fait arrêter plus de 4 fois, mais ils n'ont rien fait parce que à chaque fois si on les laisse, on vit toujours ensemble, ils me menacent, ils me frappent toujours. L'histoire continue, j'ai fait 8 ans avec lui, c'est la même chose jour pour jour. Donc ils m'ont conseillé de fuir, donc j'ai appelé la famille, sa famille et ma famille, donc c'est divorcé et on a fait la séparation. Mais il m'a dit que tant que je ne serai pas à lui, je ne serai à personne qui va me tuer. C'est ça qui a fait que j'ai fui le Togo pour arriver à Abidjan.
Aujourd'hui, vous avez peur, Victoire?
J'ai très peur de lui. C'est le seul problème dans ma vie. Je ne peux pas le voir en face. Il m'a traumatisée. Je ne sais pas si un jour je peux me tenir en face de lui. Je ne sais pas comment il va réagir. Mais comme on a les enfants, il dit qu'il veut voir ses enfants. Je veux qu'on me dise comment je peux faire pour ne pas le croiser plus jamais dans ma vie. C'est mon problème, c'est tout ce que j'ai besoin qu'on me dise. Comment faire pour m'éloigner de lui? Parce que je suis traumatisée, à cause de lui, je ne dors pas bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai peur de dormir, j'ai peur que comme je vais le voir.
Restez en ligne avec nous, Victoire, Maître Tomasini. Là, évidemment, il y a un problème de peur, il y a un problème aussi d'efficacité de la justice.
Absolument. Alors, je vais vous dire que en France, j'ai également des clientes qui sont dans la même situation que cette femme. Il faut le savoir. Tout de même, je voudrais souligner que le processus est le suivant. Dans le cadre de la justice française, quand une femme dépose plainte, le dossier est instruit par le commissariat et renvoyé au procureur de la République qui va décider des poursuites, notamment devant une juridiction pénale, c'est-à-dire un tribunal correctionnel. Parallèlement à ça, on doit saisir le juge civil pour obtenir une ordonnance de protection, à savoir l'homme violent est expulsé du domicile avec un contrôle judiciaire et la femme reste donc dans l'habitation, dans le domicile conjugal. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'idéal, l'homme violent va être condamné par le tribunal correctionnel à de la prison. Ferme, ça serait ce qu'on souhaite nous en tant qu'avocats qui défendons les femmes victimes. La plupart du temps, effectivement, c'est du sursis. Donc, on se retrouve avec un homme violent dehors, mais tout de même, on a cette ordonnance de protection qui permet de protéger la femme, puisqu'il va y avoir un contrôle judiciaire et que ce dernier ne pourra pas s'approcher de cette femme ni de ses enfants. Cela étant, ça c'est le principe. Concrètement, il en va tout autrement, puisque la majorité des dépôts de plaintes sont ne sont pas suivis des faits. Donc, c'est encore trop rare.
C'est-à-dire ce que raconte Victoire, finalement.
Exactement.
La police vient, s'entretient avec le mari, et puis il ne se passe pas grand-chose.
Il ne se passe pas grand-chose. Finalement, le conjoint va ressortir, va retourner chez lui, et évidemment, va frapper.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Victoire ? Parce que si j'ai bien compris votre histoire, Victoire, votre mari n'a pas été condamné par la justice togolaise, hein, c'est bien cela.
Non.
Où vit votre mari à l'heure actuelle ?
Ah, il est en France, chez vous là-bas.
D'accord. Donc il est quand même assez loin de là où vous résidez à Abidjan. Est-ce que vous avez contacté un avocat à Abidjan qui peut vous aider éventuellement à vous protéger ?
Oui, je suis allée voir le procureur ici. Il m'a dit que comme le papa il a droit de voir ses enfants, moi je ne veux pas qu'il vienne ici pour voir ses enfants. Ils vont voir comment ils vont faire. Le juge va venir ici, ils vont me donner 2 policiers ou bien 3 policiers pour veiller sur moi, moi-même ma sécurité. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire. Donc toute ma vie, je dois fuir ou bien je dois vivre avec les policiers toute ma vie. Je ne sais pas. Ça va finir comment ? C'est ce que je veux savoir.
Marie-Laure, Orance Pariné, le fait qu'il y ait des enfants, évidemment, ça complique énormément les procédures, hein, en général.
Sûr, parce que les enfants sont instrumentalisés dans ce conflit, donc c'est compliqué. Comment mettre à l'abri les enfants ?
Est-ce que une décision judiciaire peut, puisque vous nous le disiez, Maître Tomasini, ces hommes violents, il n'y a pas d'explication à leur conduite, est-ce que la justice est de nature à les faire cesser la violence et les menaces et exercer un chantage de la peur sur ces femmes ?
Alors la justice, les mesures qui sont ordonnées, c'est-à-dire il peut y avoir ce qu'on appelle donc un contrôle judiciaire, donc la mise à distance de l'auteur et de la victime, et puis des soins thérapeutiques obligatoires dans le cadre de ce contrôle judiciaire. Donc effectivement, on peut espérer une amélioration du comportement violent du compagnon, du conjoint, du mari, mais encore une fois, dans les faits et concrètement, ces hommes-là ne se remettent jamais en question. Donc s'ils n'ont pas une obligation qui est sanctionnée, ils n'iront pas de même.
Victoire, bon courage. Merci de nous avoir appelé à Abidjan. Il faut absolument, évidemment, que vous restiez en lien avec la justice et que vous fassiez suivre votre dossier par un avocat. Hein. Ça me semble évident. Vous continuez de nous appeler. On parle des violences conjugales. Le rôle de la police et de la justice est-il déterminant pour essayer de freiner le phénomène ? 33 1 84 22 71 71. On se retrouve juste après le flash sur RFI. C'est 7 milliards de voisins.
De voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins et de voisines en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous parlons des violences conjugales. Comment briser le silence, le tabou, un problème que l'on retrouve presque partout dans le monde, en dépit des différences religieuses, culturelles, peu importe. Après, évidemment, la question que fait la police, la justice, c'est à vous de nous répondre dans votre pays. Appelez-nous si vous êtes victime de violences de votre conjoint ou de votre ex-conjoint, ou si vous êtes témoin et si vous vous interrogez, que dois-je faire? La réponse judiciaire varie énormément d'un pays à l'autre. Néanmoins, elle est essentielle, c'est ce que vous nous expliquiez, Maître Tomasini. Vous êtes avocate au barreau de Paris et spécialiste des violences conjugales, et vous aussi, Marie-Laurence Parinet, vous êtes psychothérapeute, vous travaillez d'ailleurs avec des juristes, et vous travaillez également sur la violence conjugale en Inde, où vous séjournez régulièrement. Appelez-nous donc, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous entendions une voisine, Victoire, à Abidjan, qui a dû donc fuir non seulement son mari très violent et son pays pour s'installer loin du Togo où résidait son mari. Elle est maintenant à Abidjan. Je voudrais que on entende qu'on revienne au cas du Niger. On a trois textes qui régissent la famille, il y a le code civil, la religion, la coutume, en gros. Il n'y a pas de code de la famille pour protéger plus précisément le statut de la femme. La société civile fait pression à l'heure actuelle pour qu'un code de la personne soit déposé au Parlement. Écoutez Assaoudou Abdelkader Tani, elle est coordinatrice d'ONU Femmes au Niger.
Le Niger a adopté pas mal de textes, notamment nous avons par rapport à la femme le code de procédure pénale qui a été modifié pour intégrer souvent le respect des droits de l'enfant, la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons la lutte contre l'esclavage qui a été criminalisée dans le nouveau code pénal qui est en 2004, l'Assemblée l'a modifié. Et aussi, il y a certaines pratiques, notamment les mutilations génitales féminines dont les femmes sont considérées comme un crime dans le code pénal nigérien. Si de façon harmonisée, on arrive à intégrer ces textes-là dans ce que nous appelons le code pénal, c'est déjà une avancée. Et je pense que le gouvernement actuel a vraiment la volonté de l'adoption de ces différents textes-là, prônant la promotion de la femme, et nous comptons là-dessus.
Les textes sont une chose, l'application des textes en est une autre. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Parce que faire changer les mentalités, c'est long.
Oui, faire changer les mentalités, c'est long, mais il faut d'abord les connaître, les textes, avant de les appliquer. Et aujourd'hui, la majorité de la société civile fait de la vulgarisation de ces textes son cheval de bataille. Et beaucoup de financements aujourd'hui sont en train d'arriver dans le sens de la vulgarisation de ces lois. Et aussi, l'État a mis en place certaines agences. Nous prenons par exemple au niveau de l'assistance juridique et judiciaire, qui permet par exemple à une femme, quand elle va à la justice demander le divorce ou demander la pension alimentaire, qu'elle soit assistée de façon gratuite par un avocat.
Voilà, et le ministère de la Justice au Niger prend en charge une agence nationale judiciaire maintenant qui offre du conseil judiciaire, évidemment jamais suffisamment, mais au niveau de chaque région, en particulier pour les droits des femmes. Nous sommes en ligne avec une juriste à Dakar. Bonjour Fatoumata Gaindiaye.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Association des juristes sénégalaises, un groupe de femmes particulièrement actives. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disait la représentante d'ONU Femmes au Niger? Connaître ses droits, c'est essentiel, c'est le principal problème pour les épouses qui sont battues par leur mari au Sénégal.
Je suis parfaitement d'accord avec elle. Effectivement, la première chose à faire, c'est pour ces femmes, c'est de connaître leurs droits. Quelle est la législation qui les protège? Quels droits elles ont par rapport à leur mari et autres? Mais il y a un autre aspect aussi, c'est faire de sorte que ces femmes soient financièrement indépendantes, économiquement indépendantes. Parce que au Sénégal, en tout cas, et je sais que c'est dans la plupart des pays, c'est la même chose, le constat est que les femmes qui sont battues, qui sont violentées dans les ménages, la plupart du temps, c'est des femmes qui n'ont aucune source de revenus. Et elles se disent qu'elles sont obligées de subir, sinon elles ne savent pas où aller, comment se prendre en charge, comment prendre en charge leurs enfants et autres. Donc là,
est-ce qu'au Sénégal, la loi protège les femmes victimes de violences conjugales? Jusqu'à quel point? Comment ça fonctionne?
Absolument, la loi au Sénégal, du point de vue de la législation, je peux dire qu'on n'a pas grand-chose à envier à d'autres. Déjà, il y a le code pénal qui sanctionne les violences en général. Et depuis 1999, nous avons une réforme qui vient renforcer la répression en matière de violence conjugale.
comment faisant de la qualité d'époux ça devient une circonstance aggravante. Devant une violence commise par un époux, la circonstance, cela constitue une circonstance aggravante. Et l'époux encourt une peine beaucoup plus sévère que si c'était une personne en dehors du ménage.
Vous avez monté des... Oui, je vous en prie, Madame Gaye.
Oui. Non, je voulais juste aller jusqu'au cas de domicile, c'est-à-dire même cette loi même vient en cas de domicile, on ne peut plus, l'époux ne peut plus évoquer le crime passionnel, on ne peut plus lui accorder le sursis et autres. Donc tout ça, ça vient renforcer la répression en matière de violence conjugale.
Donc la loi s'est bien durcie hein, pour les hommes qui maltraitent leurs femmes. Vous avez monté des boutiques juridiques dans des quartiers populaires au Sénégal, à Dakar, pour des femmes donc qui ne sont pas forcément lettrés qui viennent demander des conseils juridiques, mais c'est bien sûr aussi accessible aux hommes. Hein. Qu'est-ce que vous observez à l'heure actuelle? Comment se règlent la plupart du temps ces contentieux? Je ne sais pas si le mot est bien choisi. Ces cas de femmes victimes de violences conjugales.
Absolument. Au niveau de nos boutiques de droit, en tout cas au niveau de Dakar, de la région de Dakar, la boutique de Medina et celle de Pékin, c'est vrai que c'est des boutiques qui sont fréquentées aussi bien par les hommes que des femmes, mais en matière de violence conjugale, nous recevons plus de femmes qui viennent se plaindre de violences subies au sein de leur ménage. Si je prends rapidement de janvier à octobre 2015, nous avons reçu au niveau de ces deux boutiques 590 cas de violence conjugale, donc de femmes qui viennent se plaindre. Maintenant, c'est vrai que
une toute petite proportion par rapport à la réalité, bien évidemment.
À la réalité, très petite. Nous, on dit que les femmes qui osent venir vers nous. Mais la majorité n'ose pas venir, n'ose pas dénoncer ces violences, n'ose même pas penser les dénoncer. Donc je dis, c'est vrai, malheureusement, elles viennent, on fait le constat, elles viennent, on essaie de leur apporter une assistance juridique, une assistance judiciaire, si jamais elles veulent franchir le pas. Mais malheureusement, le constat, c'est que c'est très rarement qu'elle franchisse le pas.
Restez en ligne avec nous, hein, Fatoumata Gendiaye, présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Marie-Laurence Parinet, vous souhaitez intervenir?
Oui, moi je suis frappée par ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'elle n'ose pas, mais c'est pire que ça. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas conscience qu'elles sont victimes.
Est-ce qu'on peut rappeler où commence la violence conjugale?
Juste une petite chose. Justement. Je ne sais pas quels sont si ça a été recensé en France, mais par exemple en Inde, on a des statistiques qui nous disent que 55% des femmes pensent que c'est normal que leurs maris les battent, et 70% des maris trouvent que c'est normal de battre sa femme. Donc, je sais pas où on en est chez nous. C'est vrai que c'est différent, mais en tout cas, c'est avant même de faire valoir ses droits, c'est avoir conscience que ce que l'on vit n'est pas normal et de réaliser qu'on a le droit au respect. Et
la conscience de l'anormalité, elle se pose aussi dans un pays comme la France, Maître Tomasini, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Bon, ce que vient de dire donc Marie-Laurence Parinet est tout à fait exact. Je dirais globalement, c'est un problème de mentalité.
Absolument, d'éducation.
D'éducation depuis des siècles, l'homme est le chef de la famille, il commande et la femme obéit, elle s'occupe des enfants. Alors bien sûr, ça a évolué. Je vous dis pas que ça n'a pas évolué, mais ça reste un état de conscience collective qui est très ancré ça démarre dès la petite enfance et dès l'école. Aujourd'hui, il devrait y avoir, de la même façon qu'on apprend les travaux manuels, une éducation qui explique aux petits garçons comment se comporter avec les petites filles et réciproquement.
Mais c'est ce qui explique que dans un pays comme la France où une femme peut aller au commissariat et elle sera écoutée par les policiers qui ont été en principe formés à l'écoute des femmes victimes de violences conjugales, c'est ce qui explique que la majorité des femmes ne vont pas voir les policiers.
Ne vont pas les voir d'abord parce qu'elles ont honte. Dans un pays comme la France, une femme qui se fait frapper, injurier tous les jours, expliquer cela à un officier de police judiciaire, un homme de surcroît très généralement, c'est très difficile. C'est très difficile. Elles ont d'abord honte et ensuite elles ont peur.
Elles ont honte, elles vont devoir se justifier. Donc va naître la culpabilité, mais je pense que c'est important de comprendre comment elle tombe sous l'emprise de tels hommes et qu'il soit possible que naisse ce sentiment de honte et de culpabilité. C'est un processus bien particulier et c'est pas chez toutes les femmes, même en Afrique.
Alors,
hein, qui vous dit bah celui-là je lui coupe voilà, il y a des femmes qui pour qui c'est pas possible.
Quelles en sont les étapes justement?
Les étapes, c'est d'abord je crois que la femme va tomber dans les griffes d'un séducteur. Parce que de toute façon, le pervers, c'est d'abord un séducteur. Et c'est rendu possible par le fait que c'est son prince charmant. Voilà. Donc, il va la séduire. Une fois qu'elle est séduite, il va... Donc, c'est son objet. Hein, et il va la maltraiter. Et il va la maltraiter et puis...
Il va la couper de son entourage également.
Il va la couper de son entourage. C'est l'isolement, c'est l'étape qui va avec. Mais voilà, il va la maltraiter, il va la reséduire à nouveau. Mais je t'aime, mais j'ai jamais voulu faire ça, mais je ne recommencerai jamais. Donc il va réassurance. Et puis donc il la reséduit. Et voilà. Et c'est un cycle infernal. En même temps, bien entendu, il y a l'isolement. Pour ce faire, il va la couper de tout son entourage. Et donc il l'humilie. Bien entendu, en même temps, les paroles discréditantes, t'es nul, voilà. Et puis la culpabilité, et bien entendu, c'est de ta faute. Hein, c'est pas, si c'est alors, ainsi, c'est de ta faute.
Je voudrais qu'on laisse notre juriste à Dakar réagir, Fatoumata Gendiaye, parce que, on le dit depuis le début de cette émission, il y a des constantes dans tous les pays du monde, c'est-à-dire la peur et l'isolement qui fait que ces femmes ne passent pas les portes d'une boutique juridique comme la vôtre dans les quartiers populaires ou ne vont pas voir la police et encore moins, évidemment, la justice. Vous nous disiez tout à l'heure qu'au Sénégal, ce qui était essentiel, c'était l'autonomie financière des femmes et le milieu social. Comment vous réagissez là par rapport à ces différentes étapes qui enferment les femmes dans la violence conjugale?
C'est vrai, moi je suis un peu d'accord avec elle quand elle dit que c'est un cycle infernal. Parce que nous, le constat est que les hommes violents, ils récidivent toujours. La femme a beau vous dire que je vais essayer de... Elle a dit qu'il va se ressaisir, mais ça revient toujours. C'est les mêmes femmes qui reviennent. Donc, c'est vrai que chez nous, la mentalité est un problème d'éducation, la conception culturelle selon laquelle l'homme est le maître au foyer, qui a été renforcée par certaines dispositions de notre code de la famille, qui est un code qui est censé équilibrer les relations de couple, les relations familiales. Et il y a certains termes qui sont dans le code, tels que la puissance paternelle, le chef de famille, qui renforcent l'homme dans sa croyance qu'il est le maître du foyer et qu'il peut disposer de tous ceux qui sont dans le foyer, la femme et les enfants. Cependant, moi, je crois que, en tout cas, d'après nous, le constat que nous avons fait, de plus en plus, les femmes commencent à se prendre conscience qu'elles ne doivent pas subir cette violence. Elles commencent à aller, à sortir de leur foyer, à en parler, à aller vers les boutiques, à la police et ailleurs.
Oui, parce qu'il y a aussi des procès qui sont médiatisés hein, au Sénégal.
Absolument, et non seulement il y a les procès, mais les boutiques de droit, je dis, jouent un grand rôle par rapport à ça. Parce que nous faisons, nous animons dans tous les quartiers qui polarisent, par exemple, une boutique de droit, nous animons des causeries avec des leaders communautaires. Des leaders qui sont censés, qui servent de relais au niveau des communautés et qui parlent
Et qui libèrent la parole chez des femmes victimes qui sinon ne seraient pas venues parler de leurs problèmes.
Absolument, absolument.
C'est déjà une première étape.
Et ça, c'est une première étape. L'autre étape, c'est que le plaidoyer que nous portons au niveau de l'État, à mon avis, commence à porter ses fruits. Parce que le ministère de la Famille, en relation avec beaucoup d'organisations de femmes, fait toute une campagne de sensibilisation par rapport à la violence faite aux femmes. Et jusqu'aux régions les plus éloignées du Sénégal, les femmes commencent à prendre conscience. Et le ministère aussi commence à recenser les femmes qui auraient besoin de s'autonomiser en essayant de financer des projets
permettant à ces femmes d'avoir une certaine indépendance économique.
Merci.
Pour pouvoir se sortir de cette violence.
Merci beaucoup Fatoumata Gaye Ndiaye, présidente de l'Association des juristes sénégalaises. Juste à propos de l'indépendance financière des milieux sociaux, Maître Tomazini, qu'est-ce que vous observez en France?
Alors, je voulais réagir parce que effectivement, l'indépendance économique, elle est tout de même fondamentale, il faut le dire, pour pouvoir premièrement partir du domicile, pour pouvoir payer son avocat. Donc, il est évident qu'elle est importante. Cela étant, nous avons dans notre cabinet en France des clientes qui sont des femmes libres économiquement, avec une très forte personnalité et de forts revenus, et qui pour autant sont victimes. Pourquoi ? Alors, s'il n'y a pas de profil de victime, malgré tout, et je parle sous le contrôle de Marie-Laurence Parinet, il y a chez ces femmes qui sont fortes professionnellement, une fragilité affective.
Donc des femmes faille, qui ont de l'argent, qui absolument. Ont une forte personnalité, qui sont battues par leur mari.
Absolument, absolument. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une faille affective et en général, il y a un traumatisme abandonnique dès l'enfance.
Oui, c'est ça. Il y a une fragilité qui fait une fragilité narcissique, on dira. Hein. C'est-à-dire, curieusement, à la fois, ce sont des femmes qui peuvent avoir tout à fait confiance en elles dans la sphère intellectuelle, hein, donc qui vont réussir. On voit des femmes qui ont des positions très importantes. Et pour autant, dans la sphère affective, parce que là, on est dans un tout autre domaine, il y a une fragilité qui fait qu'elles vont pouvoir tomber sous l'emprise, comme ça, d'un prédateur, avec le cycle que j'expliquais tout à l'heure. Se laisser séduire, se laisser dévaloriser.
Nous repartons au standard, si vous le voulez bien. Nadine attend pour nous livrer son témoignage. Elle est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Nadine. Nadine, êtes-vous en ligne?
Bonjour,
avec
Emmanuel.
Nous? Voilà, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous avez grandi avec un père violent, c'est bien cela, qui battait votre mère?
Oui, c'est ça. Bon, je suis aînée d'une famille de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Mmh. Tout cela avait commencé quand j'étais encore au nombre de 3 filles. Et là, mon père se mettait à battre ma mère, disant qu'elle ne pouvait pas, mais elle n'était pas capable de mettre au monde un garçon. Et là, il la battait chaque jour, il l'insultait. Et là, nous, ça nous faisait du mal. Et un jour, il est parvenu à chasser notre maman de la maison, seulement parce qu'il n'a pas mis, il ne mettait pas au monde un garçon. Mmh. Et là, il a pris une deuxième femme, et elle, à son tour, elle avait eu une fille. Et elle-même, elle est partie d'elle-même de la maison, personne ne l'avait chassée. Mmh. Et là, ma maman était obligée de rentrer dans son foyer. Là, elle a eu maintenant un garçon. Et après ce garçon, elle a eu une autre cadette. Et là, quand elle est sortie de l'hôpital, elle a été gravement battue par mon papa seulement parce qu'une fois encore, elle a eu une fille. Et là, je me mettais à demander à ma maman, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas aller le dénoncer à la police. Elle me disait qu'elle le faisait pour nous parce qu'elle nous aimait, parce qu'il n'y aurait personne, il n'y aurait pas une autre femme, une autre mère qui nous supporterait comme elle nous supporte. Alors, elle était obligée de garder silence pendant tout le temps de mariage, mais nous, ça ne nous arrangeait pas. Mmh.
Comment s'est terminée cette histoire terrible dans votre famille, finalement, Nadine?
Mon père était mort. Oui, mon père était mort. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu au moins la paix, parce qu'elle était vraiment toujours battue.
Donc c'est finalement par la disparition de votre père que votre mère a pu s'en sortir.
Oui.
Aujourd'hui, vous, je crois que vous êtes extrêmement active pour la défense des droits des femmes à Goma.
Oui, ce qui m'a poussée à le faire, c'est parce que je suis comptée aussi parmi les survivants de viol. J'ai été violée quand j'avais 6 ans. J'avais encore un jour donné mon témoignage par un cousin qui vivait avec nous à la maison. Et quand mes parents l'ont su, j'étais coupable. Celui qui m'avait violée, lui, on n'avait rien fait. C'était moi la coupable. Et j'avais été même chassée de la maison. Et là, je suis allée vivre avec ma grand-mère. Non.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Nadine, avec tout le travail qui a été entrepris par les ONG dans votre pays, où le viol a beaucoup été utilisé comme arme de guerre, où vous êtes dans une société qui a vécu des conflits, où la violence est omniprésente, est-ce que malgré tout, du coup, aujourd'hui, avec la présence des associations des ONG, vous avez le sentiment que les choses ont un tout petit peu évolué ? Ou pas. Est-ce que votre mère a vécu aujourd'hui, elle aurait davantage de possibilités pour aller porter plainte?
Oui, elle pourrait le faire, sauf que quand elle devait le faire, elle-même elle ne le voulait pas. Et quand moi je me disais qu'il fallait que moi j'aille le dénoncer, elle me disait toujours que c'était pas mon histoire à moi. Je ne pouvais pas le faire sans sa permission. Crois que même si mon père était vivant aujourd'hui, elle ne pouvait pas le faire.
Merci beaucoup Nadine de nous avoir appelé de Goma. C'est incroyable comme on voit à quel point les contextes sont radicalement différents.
C'est frappant. Ça illustre bien ce cycle infernal. J'ai oublié de dire, et notre auditrice vient de le dire, ça se termine par la mort de l'un ou de l'autre.
Et sa maman qui disait ce que je supporte pour vous, mes enfants, aucune femme ne le supporterait. Voilà. Comment interpréter cela finalement, une volonté tout en étant victime d'avoir une forme d'héroïsme?
Non, c'est une forme de protection pour les enfants. C'est-à-dire que les femmes à la fois restent pour les enfants, pour les protéger, et à la fois partent pour les enfants. Les enfants, c'est bien le cœur du problème. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, on ne parle plus de violence conjugale, mais de violence intrafamiliale. Puisque, avec ce témoignage, on se rend compte que les enfants sont victimes, directement impactés par les violences au sein du couple. Et je dirais même que ce cercle infernal dont on parle, c'est aussi ça. C'est la reproduction par la suite, ou alors les enfants reproduisent ces violences et deviennent à leur tour violents, ou alors ils deviennent victimes à leur tour d'un conjoint violent.
Ça veut dire que quand il y a des répercussions sur les enfants, c'est une circonstance aggravante dans un dossier en justice contre le mari violent?
Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Vous avez les violences entre les conjoints qu'on traite, et ensuite vous avez les violences du père ou des parents envers les enfants.
C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un bon argument et qu'il faut sortir de cette spirale, parce que de toute façon, les enfants d'une certaine façon sont victimes au sein de cette spirale, et puis elle se terminera par la mort. Donc il faut s'en échapper pour vivre.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous parlons des violences conjugales aujourd'hui. Nous accueillons une voisine qui est à Paris. Waïda, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez été mariée très jeune, je crois.
Oui, à l'âge de 14 ans.
Autre pays, donc, je présume.
Oui, dans un autre pays. Je suis une Mauritanienne, mais qui a grandi au Sénégal. Et j'ai décidé de témoigner parce que au Sénégal, les hommes sénégalais sont plus que violents que les hommes mauritaniens. C'est pas une façon de stigmatiser quelqu'un et tout. Mais j'ai grandi au Sénégal, c'est là où on m'a mariée à l'âge de 14 ans. Et jusqu'à présent, je vis cette horreur. Dès que c'est 21 heures, je sais que cet homme va m'approcher avec des insultes parce que je refuse de céder et tout. Et dès que je m'en remets à mes parents, ils me disent...
Vous parlez au présent. Vous vivez toujours cette situation-là, Waïda?
Non, je la vis. Non.
C'est ce que vous avez vécu pendant des années, c'est ça?
Oui, ce que j'ai vécu, heureusement. C'est juste pour dire aux certaines...
Comment vous êtes sortie de cette violence avec votre mari?
Voilà, j'ai refusé de céder pendant quelques années. J'ai refusé de céder. J'ai été battue aussi bien par mes parents, par l'homme qui était âgé de plus de 20 ans que moi. Mais j'ai refusé de céder pendant sept longues années. Et après, finalement, il y a eu le divorce. Et j'ai jamais arrêté mes études. J'ai eu deux enfants avec ce monsieur. Mais à chaque fois quand j'ai les enfants, le premier, et dès que après un mois d'accouchement, je laisse les enfants à ma famille et je leur fais comprendre que c'est eux qui m'ont obligé à faire ce mariage.
Donc vous avez été violée et battue pendant des années, et finalement vous avez dû votre seul salut au divorce, si j'ai bien compris, Waïda.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je voudrais, on arrive bientôt au terme de cette émission, je voudrais qu'on puisse redonner des conseils essentiels pour les femmes qui nous écoutent, pour comprendre d'abord ce qui leur arrive et ce qu'elles peuvent faire. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des associations, y compris dans les pays où la justice ne fonctionne pas de la même façon que chez nous. Mais d'ailleurs, on dit qu'en Europe, la justice fonctionne bien. Ça n'est pas si simple. Vous ne cessez de nous l'expliquer, Maître Tomasini. Alors, que faire lorsque l'on est victime de violences conjugales aujourd'hui? D'abord, sur le plan psychologique, sur le plan de la compréhension de ce qui se passe en soi. Marie-Laurence Pariné.
C'est sortir, enfin pour être rapide, c'est sortir de l'isolement. C'est-à-dire, c'est aller chercher de l'aide autour de soi.
Donc, aller déposer plainte,
c'est un proche, c'est en parler, bien entendu, l'avocat, le psy, ça vient après, mais c'est souvent, c'est l'entourage. Aller parler de ce que l'on vit.
Pour sortir de l'emprise, il faut la main d'un tiers,
voilà.
Il faut l'oreille d'un tiers. Sur le plan de la justice elle-même, effectivement, première démarche, dès qu'on est insulté, dénigré, giflé, bousculé, pousser la porte d'un commissariat ou d'une association, si on n'a pas la force immédiate d'aller voir un officier de police judiciaire, une association, après le commissariat, ensuite un avocat, le 39-19 aussi en France, bien évidemment, les appels d'urgence, mais ne pas rester dans le silence.
Et juste dire, ce n'est pas normal. Être battu, entendre des paroles dévalorisantes, ce n'est pas normal. Je crois que c'est ça le premier, c'est prendre conscience de ça.
Se méfier d'un homme qui
est d'emblée. Et si on a le moindre doute, eh bien, allez en parler à quelqu'un, dis-moi, c'est normal ce que je vis. On découvrira que non, c'est pas normal.
Merci. C'est pas normal et il faut le rappeler, l'issue est souvent fatale. Homicide, suicide.
Merci à toutes les deux, Maître Tomasini, Marie-Laurence Pariné. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de cette nouvelle tendance, un tout autre sujet, des cheveux crépus et naturels, une mode ou une revendication identitaire. Et bien sûr, vous aurez la parole au 33 1 84 22 71 71. Vous trouvez toutes nos infos importantes sur notre site.